Alors, vous allez tout de suite sentir que c'est un de mes auteurs cinéastes préférés, que je suis depuis le début, que je ne rate pas un de ses films. Ben, pourquoi? Parce que dans chacun de ses films, il y a un enjeu. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? À quoi va-t-il s'attaquer? Jusqu'où va-t-il aller? C'est un vrai auteur, un auteur qui expérimente. Et voilà, chaque fois, il y a une surprise. Et non seulement une recherche formelle, mais aussi un discours.
Donc
C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire.
on évitera de parler de ces écarts de Cannes.
Au Festival de Cannes, eh ben, je trouve ça absolument symptomatique de son dernier film, Mélancolia. Donc c'est le sujet, c'est la mélancolie, c'est la dépression profonde. Donc c'est un être qui détruit son existence. Et Lars von Trier étant lui-même un grand dépressif, un hypocondriaque, quelque part, ça ne m'étonne pas qu'il ait fait cet exclandre, comme s'il voulait
Insensé, hein,
voilà, insensé,
insensé.
c'est
Faut peut-être
inacceptable.
Oui, Michel, oui,
si ben non, moi,
oui.
Non, justement, parce que tout d'un coup, j'ai un doute, je ne me souviens plus très bien. Donc, s'il vous plaît,
pardon,
aidez-moi.
Pendant la conférence de
Nathalie.
presse à Cannes, Lars von Trier a fait l'éloge
Du nazisme.
d'Hitler en disant qu'il comprenait ce personnage, ce qu'il devait ressentir dans son bunker, qu'il était assez proche de l'imagerie, hein, il n'a pas dit de l'idéologie, mais de l'imagerie nazie, avec toujours ce langage de provocation et d'humour danois complètement à côté de la plaque, et surtout. Pour moi, c'est vraiment l'histoire de son film Mélancolie. Il se saborde lui-même. Hein. Il a fait peut-être le plus beau film de son œuvre, et c'est comme s'il ne pouvait pas supporter qu'il ait atteint ce niveau-là, qu'il ait une reconnaissance, et c'est comme si il se tirait une balle dans le pied. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends.
Michel.
Juste pour nous aider à suivre encore, vous pouvez nous rappeler les premières œuvres de Lars von
Alors,
Trier?
Lars von Trier a commencé avec un cinéma tout à fait classique, mais déjà avec une recherche formelle au niveau des couleurs, avec Element of Crime. Ça, c'est son premier film dont on a vraiment entendu parler. Épidémique, qui est un film beaucoup plus en noir et blanc, beaucoup plus moins répandu. Europa, dont on a beaucoup
Beaucoup
entendu
parlé.
parler, avec Jean-Marc Barr, un film extrêmement maîtrisé, léché, avec beaucoup de trucage dans l'image. Et à partir de là, il a atteint une espèce de niveau de perfection esthétique qu'il a décidé de casser. Et il a fait cette série complètement barge, complètement révolutionnaire,
Déjanté.
déjantée pour la télévision, ça doit être danoise, qui s'appelait L'hôpital et ses fantômes. Et c'est à partir de là qu'il a tout remis en question. C'est-à-dire une caméra à l'épaule qui bouge tout le temps, les comédiens d'une prise à l'autre prennent un autre rythme de parole, il n'y a plus de raccord, il n'y a plus de respect de la restitution de l'espace, il n'y a plus de raccord mouvement.
Il a
Donc
signé
on est.
Dogma, il a signé Dogma.
Alors, Dogma, oui, c'est juste après, c'est en 95.
Donc,
Il
qui
l'a
semble vous
signé
avoir marqué, Michel Boyer?
avec Thomas Vinterberg, qui a fait un très grand film aussi qui s'appelle
Festen.
Festen.
Alors ça, là, on touche au chef-d'œuvre.
Voilà, mais Mélancolia, c'est du même genre. En tout cas, toute la partie du mariage, c'est la même force, la même critique acerbe, sociale, où tout est mis à mal, toutes les conventions sociales sont mises à mal. Et puis, le film qui a marqué, c'est Breaking the Waves.
Bien
Alors
sûr.
ça, avec Emily Watson, qui a été un choc. Pour moi aussi, un choc en tant que monteuse. Là, tout d'un coup, il y avait une écriture. Je ne comprenais pas comment on pouvait monter un film avec une caméra comme ça qui ne respecte rien, les gens ne se regardent pas. Et il y a une logique. Il y a une logique, il y a une vraie écriture, il y a une idée hein, derrière.
Enfin, c'est vachement éprouvant pour le spectateur, hein.
C'est éprouvant, mais ce n'est pas.
Ça
Voilà,
bouge tout le temps,
ça bouge
le
tout le temps.
zoom, on a l'impression d'un amateur qui a une caméra pour la première fois. Donc il veut tout filmer en même temps. Et la scène du mariage dans Mélancolie, moi j'ai failli sortir parce que ça donne mal à la tête.
Alors, revenons à Mélancolie.
Alors, Mélancolie, donc c'est le titre, la mélancolie, hein, c'est le thème du film. Et c'est le portrait de deux femmes, de deux sœurs, qui sont jouées Justine par Kristen Dunst, qui a eu d'ailleurs la palme de l'interprétation à Cannes, et Claire, jouée par Charlotte Gainsbourg, qui est sa sœur dans le film. Et donc, c'est en fait par ces deux femmes-là, en les suivant, les accompagnements, qu'on va vivre la fin du monde. Alors, l'idée, c'est que la mélancolie soit représentée littéralement, concrètement, par une planète qui s'appelle Mélancolia et qui s'approche de la Terre et qui va la percuter et écraser la Terre. Alors, ce qui est très, très impressionnant, c'est que le film commence et est structuré en trois parties. Un prologue qui nous dit tout. Tout est énoncé. Ça commence sur l'ouverture de Tristan et Isolt de Wagner, avec une succession d'images, tableaux époustouflantes, fascinantes, envoûtantes, apocalyptiques, comme une succession d'images de rêves. Vous savez, on a tous des rêves ou des cauchemars. Et par exemple, on marche et on peut pas sortir, avancer. On a les pieds qui collent dans la boue ou dans l'herbe. Et ces images-là nous frappent et nous poursuivent toute la journée, même après le réveil. Et toute cette série d'images sont de cet ordre-là, sauf qu'elles sont en plus très esthétisantes. Elles sont symboliques. Elles ont une image symbolique très forte. Et elles font référence à toute une esthétique romantique. Par exemple, il y a, on fait référence à Ophélie qui glisse sur les eaux, comme dans le tableau de Rossetti. Il y a un tableau de Bruegel, Chasseur dans la neige, qui brûle et tombe en cendres. Il y a un cheval qui s'affaisse extrêmement lentement, tout est au ralenti. Il y a cette mariée, Justine, en robe blanche, qui essaye de marcher dans la forêt, qui est entravée par des lianes qui s'accrochent à sa robe, à ses pieds. Et entrecoupée des images, comme le disait Christophe, dans 2001, Odyssée de l'espace, de deux planètes qui s'approchent l'une de l'autre, dont l'une d'elles est la Terre, qu'on reconnaît évidemment, et qui petit à petit vont vers l'apocalypse. Et donc, la plus Mélancolia, qui est plus grosse que la Terre, absorbe la Terre. Et ça, à la fin de l'ouverture de
Tristan Isolt.
Donc, tout est dit, tout est donné. On est déjà dans un état de tension extrême. Là commence le premier chapitre qui est consacré à Justine, au mariage de Justine, qui est la soirée de mariage, qui commence par une scène hilarante d'une grande limousine à je sais pas combien de portes. Mais
j'imagine les grandes limousines blanches comme on en voit souvent dans Paris.
Ouais.
Et ils arrivent dans la propriété, sauf qu'il y a le chemin qui fait un épingle à cheveux et ils n'arrivent pas. Et dedans, il y a le marié et la mariée qui au début sont très tendres et puis qui au bout d'un moment s'énervent en disant on va être en retard. Et ça, c'est très bon.
Voilà, donc il y a toujours ce mélange d'humour, et puis donc ils arrivent à pied finalement, en retard, tout le monde les attend dans un manoir, une maison absolument incroyable, entourée d'un golf, et là il y a une soirée somptueuse qui est organisée par Charlotte Gainsbourg, qui est la sœur de Justine, et son mari John, qui est joué par Kiefer Sutherland, qui est extrêmement bon aussi. Et donc cette soirée pourrait être, dans un film hollywoodien, une espèce de comédie catastrophe où la mariée, par ses penchants dépressifs, provoque des désastres après les uns après les autres. Sauf que, vu par Lars von Trier, lui, il s'acharne à démasquer, à détruire toute l'imagerie du bonheur, du luxe, de la réussite sociale, de l'organisation, et toutes les conventions sociales, familiales, et il révèle tous les rapports de force entre les personnages, les rapports de domination entre les couples, entre le patron et l'employé. C'est vraiment extraordinaire de déconstruction.
La mère fait un discours, c'est Charlotte Rampling,
en disant
je déteste les mariages, je déteste ma fille, je vois vraiment pas ce que je fais là. Enfin, bon, c'est...
On est absolument dans le ton de Festen, de Thomas Vinterberg. Et donc, par la faute de Justine, qui voit sa mélancolie remonter en elle va détruire tout ce bonheur qu'elle avait à portée de main. Et ce qui est très fort dans le film, c'est qu'on est en empathie avec Justine. Hein, et aussi, ce qui nous montre, qui nous fait ressentir très fort, c'est le lien entre les deux sœurs, hein, entre Charlotte Gainsbourg et Justine, même au-delà de cette maladie, au-delà de tous les désastres qu'elle provoque autour d'elle. Alors, c'est cette forme tout à fait documentaire, tournée caméra à l'épaule, mais qui est très difficile peut-être à supporter, mais qui a un sens parce que c'est axé sur l'intensité du jeu des comédiens. La caméra, elle est toujours là où c'est fort par rapport aux comédiens. Il faut remarquer aussi que cette caméra se calme. C'est surtout secoué, comme ça, très, très violent, à l'intérieur, dans ce huis clos, cette espèce de bouillon de culture sociale qu'il veut dénoncer. Mais dès qu'on sort à l'extérieur, la caméra devient plus calme. On a une sensation d'espace.
Donc moins de vertige, voilà. Christophe.
Et moins plus, de vertige à l'extérieur. Voilà.
Et dans le second chapitre, qui s'intitule Claire, la caméra est de moins en moins agitée, plus on va vers ce moment final et fatal. Là, on retrouve la même famille, mais dans cette maison où il n'y a plus que Justine, qui revient en pleine dépression, qui n'arrive presque plus à marcher, à manger.
Ouais, donc, il faut avoir le... C'est pas franchement...
C'est pas réjouissant. Non, c'est pas un film drôle. C'est un film
léger.
Grave.
Oui, c'est
non,
grave.
Non, c'est un film grave, c'est un film sérieux. Hein. Et donc, ce qui est formidable, c'est quand même la solidarité de ces deux femmes. Claire l'aide, hein, malgré tout. Il y a aussi un lien très fort avec l'enfant, hein, le petit Léo, le fils de Claire. Et avec John, le mari de Claire, tous attendent, hein, l'imminence de l'approche de cette planète qui va détruire la Terre. Et là, chacun se révèle aussi par son attitude.
Parce que bien sûr, on sait qu'il va y avoir cette collision.
Évidemment, nous, on l'a vu au départ, mais tout le monde le sait. Et là, on a l'esprit positif du mari qui regarde tout par un télescope, qui embrigade son fils dans cet esprit hyper positif. Et là, une idée géniale, c'est le petit garçon invente un instrument pour mesurer l'approche de cette planète. C'est un petit bout de bois au bout duquel il y a un fil de fer.
Bon, c'est une réflexion sur la mort, naturellement, derrière tout cela.
Oui, oui.
La mort est tout le temps là, ouais. Comme dans la mélancolie.
Enfin, sur la
mais,
fin de la fin. De la
f- mais la f- non, la c'est fin. L'attirance vers la planète noire.
Oui, on peut laisser parler, mais c'est du débat, n'empêche.
Oui, non, mais je peux peut-être citer une phrase de Lars von Trier qui peut nous donner une piste. Il dit, lui-même étant un grand dépressif, il dit « Il y a une douceur du désastre, c'est une des données de la mélancolie, la douceur dans la souffrance. » Et on est vraiment là-dedans. Et ce film est magistral parce qu'il nous met en empathie avec ces personnages, on connaît la fin, on sait que ça va être la catastrophe. Mais on n'arrive pas à se dire, mais comment il va faire, lui, en tant que réalisateur, pour nous montrer ça, pour nous mener, est-ce qu'il va, à un moment donné, diverger, esquiver, hein, comment il va faire pour nous montrer cette fin du monde. Et là, c'est le talent de Lars von Trier, il y va, il ne déçoit pas, il va jusqu'au bout, hein, avec une force incroyable, avec des idées d'autant plus fortes qu'elles sont simples, réelles, réalistes, je ne vous dirai pas l'idée de fin, mais on est complètement écrasé. Et on n'est pas indemne, hein, on est ahurissant et c'est magistral.